présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Espèce de perroquet jaune et vert, cheveux en bataille, stylisé, blond, visage maquillé à outrance, d'ailleurs vert clair, chaussures jaunes. Mademoiselle Lapin, regarde monsieur. De Jean Jus avec ses yeux de myope. Elle se dit que c'est une personne bien distinguée.
Regarde.
Mais que ça ne vaut pas le petit François du Tour. Sorte de l'ascenseur. Après un long parcours, qui le mène au secrétaire particulière de Judith. Et la secrétaire particulière va faire entrer le pauvre monsieur de Jean-Jus dans le bureau de Judith. Le pauvre monsieur de Jean-Jus, il est tout étourdi d'avoir été regardé par toutes ces femmes, surtout cette femme étrange qui l'a cru qu'elle allait lui sauter dessus dans l'ascenseur. Entrez. Judith, en le voyant entrer, se lève et va à lui. Elle est magnifique en tailleur noir. Elle lui dit « Bonjour, monsieur de Jean-Jus. Bonjour, Judith. Venez vous asseoir. » Elle va s'asseoir en face du bureau. Elle à son bureau. Elle lui dit « Je n'aime pas recevoir à mon bureau les personnes de notre groupe. » Il lui dit « C'est assez grave et désagréable à dire. » Elle lui dit « Je vous écoute alors. » Il lui dit « Eh bien, voilà, le jeune homme a disparu. » « Quel jeune homme ?»« Vous savez bien, le quatrième. » « Griff, recours-toi, dont son père est un jeune tout, lui. » Elle lui dit furieuse. « Il a disparu ? Comment ? Vous l'avez laissé partir ? Je vous avais bien dit de le surveiller. » « je sais, mais avec mon travail, ce n'est pas facile. Et puis, je ne pouvais pas l'enfermer. Calmez-vous. » Alors, il est parti se promener et n'est pas reparu. Elle lui demande furieuse. Vous ne l'avez pas cherché ? Il lui dit gêné. C'est difficile, dans cette ville infernale. Elle soupire et lui dit. Je me demande pourquoi vous habitez une telle ville. Il lui dit. J'y ai mes souvenirs. Elle lui dit furieuse. Ce qu'il me fait, c'est de surveiller ce jeune homme. D'habitude, vous savez vous y faire avec eux. Comment allons-nous faire maintenant ? Il lui dit, c'est difficile. Nous ne pouvons pas compter sur la police. Et leur dire quoi ? Je ne lui suis rien. Alors, j'ai pensé que nos hommes pourraient peut-être s'en occuper. Elle lui dit, vous avez raison. Je vais en parler. Vous, vous allez retourner à Lyon. On ne sait jamais. Si vous le retrouvez, vous nous l'amenez de gré ou de force à Paris. Il sera plus sûr. Il sera près de nous. Jean-Jules lui dit, je vais rentrer à Lyon de suite. Et j'ai vu sa sainteté. Et lui croit que c'est vraiment lui que l'on recherche. Il y a eu les signes. Elle lui dit, vous avez parlé au pape ? Il lui dit, eh bien, c'est lui qui m'en a parlé. Elle lui dit, il faut se méfier. Nous vous avons fait entrer dans l'intimité du Saint-Siège, c'est pour les surveiller et les aiguiller. Non, pour pactiser avec eux. Vous savez très bien que beaucoup de catholiques sont des gauchistes. L'évêque qui tend n'est plus rien. De toute façon, ils seront détruits comme les autres si le monde occidental doit s'écrouler. Et s'il doit survivre, ce sera qu'avec nous et nous seuls. Jean-Jules lui dit, vous avez tout à fait raison. Bien, il ne me reste plus qu'à m'en aller. Elle lui demande, vous avez une photo du jeune ? Il lui dit, non. Elle lui fait, il vous faut être plus moderne, vos grimoires, c'est très bien, mais l'informatique, les photos, c'est bien aussi. Pour les recherches, ça nous aurait été bien utile. Enfin, je vais voir au centre des informations. Judith va voir le man noir pour lui dire ce que lui a dit monsieur de Jean-Jus. Il dit, bien, je vais prévenir Lyon et envoyer des troupes là-bas. Que de temps perdu. Monsieur de Jean-Jus est impossible. Pendant ce temps, à Lyon, il y a presque toutes les nuits des émeutes. des tueries. Les anarchistes ont fait main basse sur la ville et veulent détruire pour détruire, mais ne rien mettre à la place. Les anarchistes se sont infiltrés chez les étudiants grâce aux Allemands qui ont réussi à leur donner l'esprit anarchiste à nos chers jeunes gens. La ville doit être rénovée comme toutes les grandes villes par Tremblant. Et les anarchistes veulent empêcher la rénovation. Ils s'attaquent aux ouvriers, aux chantiers, empêchent les accès aux chantiers. La police, les hommes en noir, essayent de les déloger et cela crée des émeutes. Cela crée beaucoup d'émeutes. Tout ceci se passe au milieu d'une population de déshérités. SDF, enfants qui traînent dans les rues. Et ces émeutes créent encore plus de miséreux parce que les gens ne peuvent pas travailler. Le PC des anarchistes se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse et le dénommé Robert Dutour, père de François, est l'un des chefs. Radio C, qui est en bas des pentes, appelle au soulèvement et à l'émeute. Robert crie dans le micro pour ça. Presque tous les jours, il y a des émeutes. Ce qui crée des décombres, des immeubles détruits, vitres brisées, voitures brûlées. Les meubles, les pentes sont dans un état catastrophique de vraies ruines. Il n'y a plus de fenêtres. Il y a de nombreux immeubles en feu. Cela crée des blessés, des morts. La ville ressemble à une ville en ruine. Le Rhône et la Saône transportent des déchets d'encombrants, voitures et même des cadavres que l'on jette par les fenêtres et dans le fleuve. L'eau du Rhône et de la Saône est rouge sang. Les maisons démolies. Les cadavres sont sortis des maisons. Et les gens qui restent se trouvent à la rue. Et après, comme ils n'ont rien, ils campent sur les places, les quais. Les SDF, eux, vont se cacher dans les caves, les égouts, les sous-sols de la ville. Ils ont peur des hommes en noir. Oui. Ils ont peur des hommes en noir. Parce qu'ils passent avec des camions. Et quand ils voient les gens à la rue, les hommes en noir, ils les prennent. Ou les tuent à coups de mitraillette, couteau, etc. Ils en gardent certains pour les faire travailler. Après avoir tué les victimes, on prend les corps pour l'incinérateur et avant, on leur prend leurs organes. Il y a aussi des voitures qui sillonnent la ville 24 heures sur 24 et ramassent tous les enfants qui voient ou les adultes en bon état pour leurs organes. Si vous voyez ce que je veux dire. Avant de leur prendre leurs organes, on recherche si les enfants ne peuvent pas aller dans les écoles privées pour ensuite travailler chez Franc-Blanc. Mais s'ils ont de bons organes, on leur prend leurs organes. Mais sinon, ni les de bons organes, ni sont bons pour les études, ça sert pour les parties pour chiens et chats. Rien n'est perdu. La ville de Lyon est paralysée par les tueries. À cause de ces tueries, les tueries des anarchistes. La rénovation se fait tout doucement. Les affaires vont ralentir. Mais qui manipule tout ça? Et à qui rapportent toutes ces horreurs? On dit que un des chefs anarchistes est le fils du maire. Oui, le propre fils du maire. Et qu'il est manipulé par des hommes à Franc-Blanc sans qu'il le sache. Des meneurs qui excitent et provoquent l'émeute. Pourquoi? Peut-être pour que Franc-Blanc puisse avoir les immeubles et les terrains à bas prix. Car à cause des émeutes, les gens ne veulent plus investir à Lyon. Ils veulent quitter cette ville. Et la ville se vide le plus vite possible. Les terrains sont rachetés à prix bas, les immeubles aussi par Franc-Blanc. Pour ce qui est des gens qui habitent ces immeubles, ou ils sont éliminés par les émeutiers, ou on fait des gens on les met dans des régions, dans des logements sociaux. Mais la plupart du temps, il y a très peu de gens qui sortent de la ville de Lyon parce qu'on élimine les pauvres. On les mitraille. Parce que l'on veut une ville propre. De gens qui savent se tenir donc pas de pauvres. Ce qui fait toutes ces émeutes, c'est tout bénéfice pour la Franc-Blanc. Et ce n'est pas plus cela aide pour la démolition, parce qu'ils sont en partie détruits par les émeutiers et vidés des occupants. Cela fait gagner de l'argent et du temps. Pas la peine d'attendre que les gens s'en aillent, des discussions interminables pour et puis pour les dédommager et leur trouver un autre logement. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés ou partis d'eux-mêmes. Ils sont partis, chassés. Mais ne sont pas expulsés officiellement. Ils ne peuvent rien demander à la Franc-Blanc, ni à leur assurance. Et puis les assurances sont toujours quelque chose pour ne pas payer. Elles disent qu'elles ne remboursent pas les dégâts d'une émeute, etc., etc. Vive l'anarchie pour Franc-Blanc. En plus, il y a Ricain Greffe. Et leur filiale, au milieu de ces tueries, des hommes venus de Paris, habillés en SDF, sillonnent la ville. Et cherche Cliff. Il cherche dans les rues, regarde, écoute, ils sont de partout, ont une photo de Cliff. Pour même les livreurs pour entrer dans les maisons. Et heureux au milieu de ces jeunes filles en fleurs qui jouent à la poupée avec lui, le soigne, lui donne des douceurs, le distrait, elle le déguise avec des robes, il se laisse faire et rit avec elle, elle le couvre de baisers et de caresses, lui se laisse faire, il ne sait pas laquelle des deux est la plus jolie et charmante. Il se trouve dans un petit paradis terrestre, un jardin entourée d'un haut mur, et au milieu de ce jardin, une charmante maison. Les murs leur cachent la ville et le bruit. Clive ne sort jamais. Elles ne veulent pas parce qu'elles ont peur qu'ils ne reviennent pas. Et puis, ils risquent de se faire tuer. C'est elles qui vont faire les courses. Elles arrivent toujours à apporter des choses à manger et de bonnes choses. Avec l'argent du père qui leur en envoie toujours. Et avec cet argent, il y a toujours quelque chose à acheter. Pendant ce temps, M. de Jansieu est revenu chez lui et ne bouge pas. On ne sait jamais qui peut revenir. Il se dit, c'est peut-être l'élu. Et puis, qui sait, il a une grâce, une beauté exceptionnelle. Mais les autres aussi, comment savoir si jeune tout était son parent. Il a peut-être eu 4 descendants. Alors, que faire? Il est peut-être de sa branche. Mais comment savoir l'ADN? Et même si jeune tout était de sa famille, rien dire. Jeune tout était déjà un des nôtres, de nos prétendants, Gilbert, François, Didier sont aussi des prétendants. Mais que faire? Il faut faire vite, c'est bientôt la fin. Si nous ne trouvons pas l'élu, nous sommes perdus. Oui, nous sommes perdus. Monsieur de Jansieu s'est trompé. C'est pas Didier, mais Olivier qui est le troisième prétendant, mais il est troublé. Un après-midi, une vieille femme à cheveux blancs, habillée de loques, se promène dans une petite impasse des pentes de Fourvière. En passant devant un portail d'une propriété, des rires. Elle regarde à travers les barreaux du portail et là elle voit un jardin et des jeunes filles qui jouent à calamagar avec un jeune homme blond. La jeune fille blonde se met à crier « Clive, Clive, essaie-moi de me rattraper. Essaie-moi de m'attraper. » La femme reste un moment pour les voir. Et vite, elle quitte la rue. Elle prend une rue qui monte à Fourvière. Et là, elle entre dans un vieil immeuble. Monte jusqu'au dernier étage. Frappe à une porte. La porte s'ouvre. C'est un homme grand, maigre, cheveux blancs, habillé d'un costume noir. Il lui fait « Entrez !» La pièce est sombre. Il y a une table, et sur cette table, une carte de la ville avec des croix. Elle lui dit, « Je l'ai retrouvée. » Il lui demande, « Où ?»«
Dans une petite rue, pas très loin d'ici, plutôt au fond d'une impasse, dans une propriété. Je l'ai vue, j'ai entendu son prénom, Cliff. Un prénom comme celui-là, on ne peut pas l'oublier, c'est bien lui. »
Bien, je vais faire surveiller l'impasse et le jeûne. Il ne faut pas le perdre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.